Et aujourd'hui, Parashat Mishpatim, et à ce qu'on avait étudié il y a deux semaines, Torah, la Torah est entourée de Mishpatim, on fait référence au Mahamad Ar-Sinai, donc au dévoilement au Mont Sinai, et on nous dit, bah, juste avant le dévoilement au Mont Sinai, il y a eu quoi? Il y a eu Yitro qui est venu mettre en place les Batei Mishpat. Il dit à Moshe, il faut mettre en place, voilà, des juges pour 10, pour 50, pour 100, pour 1000. Donc on a Torah ta Mishpat avant, et après les 10 commandements, on a Ve'ele à Mishpatim. D'accord? Donc pourquoi est-ce que la Torah est entourée de Mishpat? Eh bien parce que le Mishpat, la loi, c'est la particularité du Ham Israël. La particularité du judaïsme, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est présent dans tous les domaines de la vie.
Ce n'est pas qu'une religion.
Je vais te reprendre, excuse-moi. C'est pas que c'est pas qu'une religion. Ce n'est pas une religion.
Voilà, c'est un domaine. On a voulu nous cantonner avec.
C'est pas que c'est une religion et autre chose. C'est pas du tout une religion.
Voilà.
C'est l'expression de la volonté divine dans chaque élément de la vie. Le vie, pour ce qui est des mitzvot, et la Torah du Mishpat va régler la vie en société. Et qu'est-ce que ça veut dire, va régler la vie en société? Ben, ça veut dire que lorsque tu as un litige avec ton voisin, et que tu vas demander le din, comment ça s'exprime dans notre paracha? Prenez deux secondes, on va revenir au début, mais prenez deux secondes la page. Attends. Sans pression. Iné. La page 101. Ok, dans la page 101, c'est donc au chapitre 22, verset 8, on nous dit « Alkol devar pesha » sur chaque chose qui a été une honte, donc un litige, un problème. « Al-shor, al-chamor, al-se, al-salma, al-kol aveda asher yomar ki uze » donc sur tous les problèmes possibles et imaginables. « Ad ha-elohim yavo devar shenehem » Asher yershium Elohim yeshalem shnaim lereu. Ça viendra jusque devant Dieu. En vrai, où est-ce qu'ils vont les deux protagonistes? Devant le Beit Din. Ah, de là on va apprendre que Elohim, ici ça fait référence au Beit Din. Alors je veux bien que le Beit Din y juge de manière totale. Mais pourquoi est-ce qu'on les assimile Elohim? Eh bien parce que lorsque le juge y rend la justice, il dévoile Ribono Shel Olam. C'est exactement ce qu'avait dit Moshe à Yitro, Mishpatim, Lefanea, Velachareya. Lorsque Yitro lui avait dit, mais pourquoi tu fais ça que tu es tout seul à juger le peuple? Il me parle à moi, donc c'est moi qui les juge. En d'autres termes, lorsqu'on a Mishpatim, de la vie, eh bien, l'idéal est de faire rentrer Akadosh Baruch Hu partout. Je donnais dans le cours précédent l'exemple de mettre mes chaussures d'une certaine façon. Ça peut paraître quand même extrêmement intrusif. Que Akadosh Baruch Hu, il a son mot à dire pour savoir comment je mets mes chaussures. Hatshuvah, dans quoi Dieu, il n'a pas son mot à dire? Vous n'avez pas shoot? Et c'est pour ça qu'il y a des fois certaines personnes qui disent « il ne faut pas que les rabbins ils s'occupent de politique. » Qui s'occupent de schnitzel ou de shabbat, mais pas de politique. Je dis « mais s'ils ne s'occupent pas de politique, ils s'occupent de quoi » C'est-à-dire que, quoi, Kadosh Baruch Hu, il ne gère pas...
C'est-à-dire que la politique, en essence, c'est pas propre. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et ça ne correspond pas à la foi de la Torah.
Dans la vie, excuse-moi mon ami, tu as plus d'expérience de vie que moi. Tu as une plus grande expérience de la vie que moi.
Et beaucoup.
Hein ? Non, pas beaucoup. Ah, ça va, il a 40 ans, hein, c'est bon. Moi, j'en ai 36, il en a 40. Bah, c'est pas tellement plus. Hein, 40 ans, c'est ça ?
Ouais, un peu plus. Oh.
La moustache était encore noire à 40 ans, tu dis.
Il va bientôt faire 41.
C'est ça.
Deux fois plus, j'ai
plus. Un petit pas. La moustache était encore noire à l'époque. Maintenant, t'as un peu plus d'expérience de vie que moi. Alors, je te pose la question. Le monde, il n'est pas plein de traloués ?
Oui.
Pas que la politique. C'est le monde dans lequel Dieu nous a mis.
Mais c'est d'ailleurs, mais les rabbins, par essence, qui doivent s'écarter de ce monde-là. C'est pas pour eux la politique.
Mon ami, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple que peut-être tu as entendu parler de près. Les rabbins, on va pas parler des rabbins, on va parler d'un rabbin que tu connais bien, avec une barbe blanche. Ok ? Qui est habillé comme un vrai rabbin, pas comme moi, et qui a une kippa beaucoup plus belle que la mienne. Et qui a son bureau pas très loin d'ici. C'est-à-dire dans une salle adjacente de là où on est. C'est un point de détail. Il paraît que ce rabbin, qui enseigne la Torah, qui essaie de faire en sorte que sa communauté soit de plus en plus proche d'Akadosh Baruch Hu, j'ai entendu dire qu'avec un groupe de personnes, ils sont en train d'essayer de mettre sur pied un projet de construire une grande synagogue. D'après ce que tu dis, le rabbin a lancé l'idée, et puis après il est retourné au Beth Amidrash, et il ne s'occupe plus de la construction de la synagogue, puisque ça, c'est les traloued du Kablan qui a menti, qui a fait des mauvais travaux, des mauvais dessins, et qu'il faut changer, qu'il faut payer, mais il y a une campagne de dons, mais la campagne de dons, en fait, on ne peut pas dire que ça a servi à ça, mais à ça, mais à ça.
Il faut être honnête, c'est pas
son. Et dis-moi, tu dis que le rabbin en question, il n'a pas son nez dans chaque plan, dans chaque chose qui se passe ?
Le rabbin, par les connaissances qu'il a, par son intelligence, il peut donner des conseils.
Bien fait.
Mais ce n'est pas à lui à prendre le marteau et à taper sur le truc.
C'est pas à lui à prendre le marteau. Peut-être parce qu'il est pas bon en marteau.
C'est son travail.
Attends, peut-être qu'il est pas bon en marteau. Mais d'un autre côté.
Attends,
tant mort. Il peut pas participer.
Conseiller.
Et il participe pas.
Conseiller.
Non. Il s'agit pas seulement de conseiller. Il s'agit de participer. Exemple. Tu crois que le rabbin en question, quand il s'agira de me mettre le clou pour fixer, je sais pas moi. Il ne va pas le faire ? Il ne voudra pas participer ? Prenons un exemple. Lorsque les parabins, les pas de tzadikim, ils font des choses, ils font. Mais on dispute les choses qu'ils ont faites. C'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, Yitzhak Avinu, il a plein de gens qui sont avec lui, et ils vont creuser des puits. Et à chaque fois que les hommes de Yitzhak creusent des puits, les plishtim, ils viennent et ils bouchent les puits. Et il y a des problèmes autour de chaque puits. Le dernier puits, Yitzhak, il y va tout seul, comme un grand. Et c'est lui qui creuse le puits. Et nous dit la Torah, « Velo ravu aler. » Et ce puits-là, personne n'a osé s'en approcher, il n'y a pas eu de problème. « Vatikra et shmo rechovot. » Lorsque le tzaddik, il met les mains dans le cambouis, ça marche.
Oui. Ça dit que moi, j'ai vécu. C'est vrai que j'ai vécu. Et je vis encore. Mais je me suis aperçu que dans la vie, c'est compartimenté. C'est-à-dire que quand tu décides de faire un bignan, il y a l'ingénieur, il y a le...
Bien sûr.
Et chacun a son travail.
Bien sûr.
Tu ne peux pas dire à l'ingénieur de prendre...
Mais bien sûr que non, je ne dis pas ça. Je dis pas que si le Rav, il sait pas, si le Rav, il connaît, il a aucune notion d'ingénierie, c'est pas lui qui va dire.
Que tu tombes, excuse-moi, que tu tombes sur quelqu'un, j'ai un érotique, mais c'est pas, je vais faire la main. Si tu tombes sur quelqu'un qui, de lui-même, il veut mettre la main à la pâte, ok, ça, c'est pas, mais on peut pas lui demander.
Si.
C'est pas son travail.
Si. T'as pas compris. Il s'agit pas de faire du rabbin le kablan. Il ne s'agit pas de faire du rabbin l'architecte. Si le rabbin, il dessine comme moi, vaut mieux pas qu'il soit architecte. Ok ? Mes qualités de dessinateur sont extrêmement réduites. Ok, vraiment très 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 petite. Donc faut pas que ce soit moi qui décide.
Dessins, hein. Hein, je les ai vu faire des dessins.
Et t'as vu que c'était pas.
Si deux ingénieurs qui sont dans la même synagogue, deux ingénieurs, ils sont pas d'accord sur un sujet de leur travail. Qui vont les voir? Les deux, pour faire la différence, c'est pour dire qui a raison. Qui vont les voir? Ils sont dans la même choule avec le même rabbin. Qui vont les voir? Deux de même métier, ils sont pas d'accord. Ils sont dans la même communauté. Qui vont les voir pour les séparer dans leurs problèmes? C'est ce qu'il veut te dire.
C'est ce que je veux te dire, c'est que...
Même si c'est pas...
Non, mais moi, je dis que ça ne va pas seulement... Ça ne s'arrête pas au conseil. Bien sûr que le rabbin, il ne devient pas ingénieur, il ne devient pas architecte, ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être là-bas dans sa chambre en train d'étudier... Et que de temps en temps, on vient lui poser une question. Non, il doit être complètement impliqué. Maintenant, impliqué comment? Dans ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il ne sait pas faire, on ne va pas lui demander de faire. Mais il faut qu'il soit impliqué dans ce monde. Bien sûr, le rabbin, son rôle n'est pas seulement de donner des indications théoriques, mais c'est de faire les choses de manière pratique. Ce qu'il est capable de faire. Si il y a un truc qu'il ne sait pas faire, et il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire, il va lui dire, fais-le toi, parce que toi, tu es meilleur que moi. D'accord ? Mais il ne peut pas rester détaché de la réalité du monde. Parce que dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose, c'est dans chaque chose.
Il
est
détaché, parce qu'il est impliqué dans le projet.
Oh, il a fait.
Pas détaché.
Il a fait. Il est impliqué dans le projet. C'est pas, il a dit, j'aimerais bien qu'on ait une synagogue. Yalla, on se revoit dans 10 ans.
C'est-à-dire, mais à partir du moment où il est impliqué dans le projet et que ça démarre,
oui,
chacun, il a son comportement.
Bien sûr, mais bien sûr, c'est évident. Bien sûr.
Donc on est
d'accord. On est d'accord. Mais bien sûr. Mais évidemment. Je t'ai dit, 36 ans, 40 ans, c'est pareil.
Ça veut dire. Là, tu donnes une définition du rôle du rabbin en Eretz Israël. En Ruth Saaretz, c'est tout à fait différent. C'est le président de la communauté, ainsi que son bureau, qui décide l'ensemble des choses. À savoir, et la première chose importante, c'est la nomination du rabbin. Et s'ils ne sont pas contents, ils votent.
C'est comme ça. Ça, c'est comme ça aussi en Israël, hein?
Beaucoup moins, c'est moins visible.
C'est le public, c'est la communauté qui choisit quel rabbin il veut.
Si tu veux, c'est moins prééminent, c'est moins important. Mais je voulais venir à une deuxième remarque que tu as fait au sujet de la religion, en disant que, et sur quoi tu as tout à fait raison, c'est que la religion a un rôle très important dans le social, dans la vie, dans la politique, au sens honorable du terme, politique de la démarche, un petit peu de l'ensemble des individus. Et de leur gouvernement. Et ça, ce que j'ai du mal à moi à faire la part des choses, ce qui se passe dans le système politique français, où la laïcité, où la séparation de l'Église et de l'État, est un dogme important. Et j'ai du mal, moi, à voir la différence qui existe entre les deux. Sinon que les gens qui postulent un petit peu cette idée de laïcité, ils disent, bon, on est en dehors de l'Église. Mais on est des hommes qui ont des qualités, qui ont des défauts, qui sont soumis à des influences importantes. Il y a une manière parce que finalement, il y a une intrication entre les deux. J'ai du mal à voir un petit peu ce qui se passe.
La séparation entre l'Église et l'État, au niveau européen, au niveau de la France, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. La séparation de l'Église et de l'État, c'était parce que de toute façon, l'Église ne s'occupait pas des mêmes questions que l'État, mais il y avait des influences. C'est-à-dire, l'Église, avant la loi de 1905, l'Église, c'était pas elle qui gérait l'éducation nationale, c'était pas elle qui gérait la santé, c'était pas elle qui gérait tout ça. Il y a eu une époque où c'était uniquement le clergé qui était professeur. Mais avant la loi de 1905, c'était déjà plus le cas. Maintenant, que tu me dises qu'il y avait des influences de l'Église par rapport à l'État, et c'est pour ça qu'ils ont voulu se séparer complètement. De dire que maintenant, l'État, il n'a plus d'influence de la religion. Tu vis ta religion dans le domaine privé, ce que tu veux, mais au niveau de l'État, il n'y a pas de symbole religieux. Mais en fait, ça, c'est juste du paraître. Quand on te dit... qu'on sépare l'Église et l'État, ça veut dire quoi, profondément? Eh bien, cela veut dire que les lois la vie en société gérée par le Parlement, le gouvernement, ce que tu veux, c'est les hommes qui déterminent quel est ce qu'il faut mettre en place pour la vie entre les hommes. Le judaïsme vient dire, celui qui détermine ce qu'il faut pour la vie entre les hommes, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Pour que la vie des hommes et leurs actions les plus petites soient reliées à l'éternité. C'est parce que je ne veux pas penser que mes actions n'ont pas d'influence sur l'éternité. Je veux penser que ma vie a un rôle. Et donc, eh bien, je vais rattacher chaque chose à Dieu. Et c'est ce que lui m'a demandé de faire. Donc la séparation de l'Église et l'État, c'est tout simplement dire que mon monde n'est pas éternel. Il se limite à moi, à ma société, à ma civilisation. Alors que le judaïsme vient nous dire que le monde a pour origine celui qui est un. Donc je dois le dévoiler partout pour donner une signification à tout. Rappelle-toi, rappelle-toi le petit prince. Tout le livre, si je devais résumer le livre en entier, c'est comment donner une signification éternelle à la rose éphémère du petit prince. Ben, c'est exactement ça le judaïsme. Comment donner une signification éternelle à chaque action du quotidien qui sont a priori petits. Ok ? C'est tout un programme. C'est tout un programme. Ça y est ?
Ça se pose au niveau que nous, on n'a pas atteint. Bon. C'est pas, à part le fait d'être moral, de faire attention à ce qu'on fait, etc. Après, au-delà de là...
Mon ami, tu connais ce verset ?
Tu sais, les avocats, quand ils parlent, plusieurs fois, on a parlé. Les avocats, ils disent que les lois, elles sont faites pour être contournées. Comme ça, elles sont.
Oui, mais sauf que la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle nous dit « Al tiyu keorcheh adayanim » Ne sois pas comme les avocats. C'est-à-dire, maintenant, deux secondes.
Tu as compris.
Mais d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a des truands que toi, tu dois truander.
Et nous, on n'est pas censé de connaître, on est censé connaître la loi, c'est-à-dire, mais personne ne le fait.
Alors
on connaît les débris.
Dès que tu auras atteint les 41 ans, j'espère que tu comprendras un peu plus.
Je suis certain qu'il y en a d'autres aussi.
Disons comme ça, on va faire comme ça, on va faire très simple. Tu dis, voilà, saute, on n'est pas censé. Il y a un verset que tu connais bien. Écoute-moi ce verset fantastique. Ve'atem. Ve'atem. Adevekim, Bahashem, Elohechem, Chaim, Kulchem, Ayom.
Ça, on n'oublie pas.
Attends, tu connais ce verset. Maintenant, viens, on va le décortiquer.
Oui.
À qui Moshe s'adresse-t-il? Ve'atem. Non, Atem, Atzadikim. Attends, Dieu, là, Moshe, il va parler du dévoilement divin. À qui il va parler? Pas à moi. C'est pas possible. Il parle aux Tzadikim. Non, Ve'atem, c'est sûr qu'il ne parle pas à moi, je me connais. Ah, attends, Moshe, il continue la phrase. Ve'atem, Advekim. Attends, bien sûr que j'ai raison, ça ne parle pas de moi, puisqu'on parle de Dvekout. Dvekout, être collé, être, ne faire qu'un. Attends, mais si déjà on me demande d'être collé à quelque chose, ça va être à mon objectif, peut-être pas à quelque chose de fantastique. Non, Ba'Hashem, Elohechem. Ma Davek Ba'Hashem. Eh oh, ça va bien, oui. Comment est-ce que je vais réussir? Ça, c'est certainement après que je sois mort. Quand je serai mort, je serai d'avec Bahashem. Tatem, advekim, Bahashem, Elohim. Chaim. Chaim, c'est pas.
Chaque instant.
Bon, d'accord, ben, j'ai compris. Ça, c'est le Rav Benishai, c'est pas moi. Non, Kulchem. Tout le monde. Bon, d'accord, ben, alors quand j'aurai atteint 120 ans, hein, peut-être. Non, Ayom. Va'atem, advekim, ba'ashem, elohechem, chayim, kulchem, ayom. C'est à toi qu'on parle quand on te dit des grandes choses.
On mange une pomme, on la redit, on fait une bracha avant, une bracha après.
C'est-à-dire que tu dois être conscient que quand tu manges une pomme, tu ne manges pas une pomme. Quand tu manges une pomme, tu relis le ciel et la terre.
Oui.
Ben c'est énorme. Et c'est vrai pour chaque chose. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que c'est dans chaque chose et c'est pour tout le monde. C'est ça ? D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est pour tout le monde, c'est même pour les réchaïm. Même pour ceux qui transgressent. Ah bon ? C'est qui ceux qui transgressent ? Hein ? Ouais, mais d'où je sais qu'on parle aussi à eux ? Parce qu'il y a marqué dans le début de la paracha, « Ve'atem Ezra, ve'elle amishpatim asher tassim lifneim » Ron, « Ve'elle amishpatim asher tassim lifneim » Nous dit Rashi et la Gemara. Non, attends. C'est tout le monde, mais ça ne veut pas forcément parler des Rechaïm. Regarde le raisonnement. Ve'elle, on nous dit dans le Talmud, à chaque fois qu'il y a marqué Ve'elle, ça rajoute sur ce qui a été dit avant. Quand il y a marqué que Elle, ça vient annuler ce qu'il y avait marqué avant. Là, il y a marqué Ve'elle à Mishpatim. Nous dit donc nos sages, Ma'elle Misinai, Af'elle Misinai. C'est-à-dire, de la même façon que les 10 commandements ont été donnés dans la paracha d'avant au Mont Sinaï, Ve'elle à Mishpatim, eux aussi viennent du Mont Sinaï. Jusque-là, vous me suivez ? Pose la question, le Talmud dit, mais pourquoi tu as besoin de me l'apprendre ? C'est-à-dire, est-ce que j'aurais pu avoir un Hava Amina, c'est-à-dire une pensée a priori, que cette paracha, elle n'a pas été donnée au Mont Sinaï ? Entre la fin de paracha... Non, on termine, on te dit, l'homme parle à Moshe avant, il parle à Moshe maintenant. Donc, sauf que... Kne Eved Ivri. Ah, il ne s'agit pas. Il s'agit d'un homme qui a été vendu en esclavage par le Beit Din. C'est-à-dire, c'est un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser et qui donc va faire des travaux d'intérêt généraux pour rembourser sa dette. D'accord ? Question qui est posée ici par nos sages en disant hop, 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 il a volé ? Mais comment c'est possible ? Mais de l'otignov des 10 commandements, ça veut dire ne pas kidnapper des gens. Azov, comment c'est possible ? Il a volé, alors qu'il y a marqué qu'il ne faut pas voler ? De là, tu apprends qu'il y a des gens qui ne respectent pas ce qui est marqué. Comment on appelle ça dans le langage de la Torah ? Des gens qui ne respectent pas la Torah ? Le Shaim. Ah, ça veut dire Shaim. Avalgam, pour eux, la Torah a été donnée. Ma'el Misinai, les 10 commandements ont été donnés à un peuple de tzadikim, c'était au Sinaï. Eh bien, sache que dans le peuple où même il y a des gens qui ne sont pas tzadikim, ça sera aussi Misinai. Ma'el Misinai, Af'el Misinai. Ça a l'air ? Et là, Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on arrête, donc, puisque Dieu nous a éteint la lumière. Alors, semble-t-il que ça doit être la fin de notre étude du matin. À bientôt, les amis.